Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime.
Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime.
Merci de retour avec nous pour un nouvel épisode et un épisode spécial Zodiac du Capricorne. J'ai arrêté parce que j'ai vu Gandalf se lever et je me demandais s'il allait embarquer sur l'ordinateur et peut-être gâcher notre enregistrement, mais il a juste l'air vraiment curieux de des petits waves.
Ouais, comme quand les formes d'ondes s'enregistrent, Gandalf est juste hypnotisé. Donc, note à vous qu'il y avait des chats, si vous voulez hypnotiser le vôtre, votre ami félin, partez voir un podcast!
Et comme d'habitude, avant d'embarquer vraiment dans l'histoire, on vous invite, si vous voulez nous encourager et que vous aimez le podcast, à nous suivre sur nos réseaux sociaux et aussi à nous suivre sur Spotify. Et tant qu'à être là, ben Spotify. N'importe quelle plateforme, votre plateforme préférée pour les balados, laissez-nous donc un 5 étoiles, c'est ce qui nous aide le plus. Et t'sais, engagez avec nous aussi sur les réseaux sociaux. Ça nous fait bien plaisir. S'il vous plaît!
Oui, ça fait quand même plusieurs fois qu'on vous le rappelle, mais nous, c'est la meilleure manière de nous aider, de faire en sorte que d'autres gens découvrent notre podcast et peut-être un jour de nous donner plus d'argent et de budget pour vous offrir encore et toujours plus de contenu.
Avant qu'on embarque dans l'épisode, il m'est arrivé un moment aujourd'hui, en venant chez Jess, j'étais à une lumière rouge, puis il y avait comme un couple juste à côté de moi dans l'auto, mais il était tellement proche de mon auto que des fois, le manteau de la fille comme accrochait mon miroir du côté pas conducteur passager, mais j'étais tellement mal à l'aise parce que c'est comme si j'étais dans leur moment à eux et les deux pleuraient à chaudes larmes. Ça avait l'air vraiment difficile, je sais pas ce qu'ils vivaient, mais il y avait un, comment on appelle ça, il y avait comme une cage, mais tu sais, un sac où ce que tu peux transporter un animal, soit un chat ou un chien qui était vide. C'était tellement triste, mais là, j'étais tellement mal à l'aise, moi je suis pas bonne avec des situations comme ça. En plus d'être neuro-spicy, là, je tenais juste mon volant, puis là, je suis juste regardé du coin de l'œil, puis là, j'étais comme « fuck ». Puis à un moment donné, j'ai eu un eye contact avec le gars, puis j'étais tellement encore plus mal à l'aise, je suais. J'étais là, j'avais juste hâte que la lumière devienne verte, puis elle n'est jamais verte, je me sentais tellement mal pour eux, puis en même temps, j'étais là, moi-même, je suis mal. Mais ouais, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont vécu, mais ça avait vraiment pas l'air facile, puis... Est-ce que je suis la seule dans des situations comme ça, quand il y a des émotions tristes, je suis vraiment pas bonne pour gérer?
J'imagine qu'à l'écoute, t'es pas la seule, mais dans notre duo, c'est moi qui gère les larmes. On va se dire les vraies affaires. Moi, je suis quand même bonne à ça, mais je vais rebondir sur ton anecdote. J'ai été le couple. T'sais, j'ai déjà fait vivre ça à une voiture parce que je discutais avec un membre de ma famille quand je lui ai annoncé que mon chien allait nous quitter dans les prochaines semaine, et la personne a éclaté de larmes au téléphone, alors ça a déclenché mes larmes à moi qui essayais déjà de se retenir, et j'ai eu un contact visuel avec un conducteur qui était juste en mode que j'ai fait vivre ça à quelqu'un.
Les choses qu'on peut voir à une lumière rouge, mon Dieu, on dirait qu'il y a tout le temps plein d'affaires qui se passent à une lumière rouge, je sais pas pour vous, mais moi, il y a tout le temps quelque chose, il y a tout le temps soit du drama, là aujourd'hui c'était un couple qui pleurait. J'ai hâte de voir. Qui sait quoi la prochaine fois?
Dans tous les cas, j'envoie beaucoup d'amour et des ondes positives à peu importe qui étaient ces deux personnes-là parce que clairement, ils vivaient quelque chose de difficile. Et là, on dirait que mon cœur de personne qui vient de vivre un deuil animal a déchiré quand t'as dit qu'il tenait une cage animale qui était vide. Alors, j'espère juste vraiment que ça va bien aller de leur côté. Puis je leur envoie un gros câlin.
Oui, moi aussi. Une chance que j'étais pas dans mes hormones parce que c'est sûr, j'aurais pleuré. Je pleure tout le temps quand mes hormones sont comme tout débalancées partout. Mais ouais, une chance que j'avais pas les hormones un peu partout parce que j'aurais pleuré, c'est sûr et certain. Puis j'étais contente de juste comme pas être dans le côté passager parce que là, j'aurais été vraiment encore plus dedans. On aurait été un groupe de trois. Ça aurait même pu être un couple de deux, là, ça aurait été trois. Je suis contente d'avoir été dans le côté conducteur.
Ben oui, on est contente que t'aies pas eu à vivre ce moment-là, mais on est encore moins contente qu'eux aient eu à le vivre de leur côté. Fait que voilà, nos pensées positives à ce couple qui avait l'air d'être en difficulté et surtout à Noémie qui a vécu un moment, ma foi, qui l'a rendu assez mal à l'aise.
Puis après ça, je vais arrêter, mais c'est surtout qu'en arrière-plan, il y avait quelqu'un qui avait un petit peu trop consommé, d'après moi, avec les culottes qui baissaient un petit peu. Puis là, j'étais juste là, hey, c'est beau Montréal, hein? Il y avait plein d'affaires en même temps qui se passaient. En même temps, de me sentir hyper mal pour les personnes, puis là, tu sais, de vouloir juste leur envoyer plein d'amour. Après ça, j'ai juste regardé la personne en arrière, puis j'étais là, wow, qu'est-ce qui se passe? Je pense que je suis due pour m'en aller loin de la ville, aller vivre en forêt.
Ouais, la forêt sounds good, hein?
Bref, parlant de forêt, Le titre du mocktail aujourd'hui n'a pas rapport avec la forêt, mais vous allez voir, il y a un ingrédient qui a rapport avec la forêt. Je m'en vais quelque part avec ça. Ça, c'était mon introduction pour le mocktail du jour. Donc, le mocktail du jour s'appelle potion hivernale. Comme j'ai dit, aucun rapport avec la forêt, mais le premier ingrédient, c'est du sirop de sapin. Je vous l'avais dit que je m'enlignais quelque part. À part le sirop de sapin, vous allez avoir besoin d'une branche de romarin pour la décoration, 3 cuillères à table de jus de lime, sucre pour le rebord du verre, qu'on va givrer, une demi-tasse de jus de canneberge rouge et du club soda. En premier lieu, vous allez tremper le rebord de votre verre dans du jus de lime et le tremper dans le sucre. Ensuite, vous allez ajouter des glaçons dans le verre. Ajoutez un soupçon de sirop de sapin. Ensuite, vous allez ajouter la cuillère à table de jus de lime, le jus de canneberge et vous allez allonger le tout avec du club soda. Et vous allez enfin décorer avec une branche de romarin et une tranche de lime. Voici voilà, voici voilà.
That's it, that's all.
Basketball.
Juste faire un shout-out à mon amie Marlandie parce qu'elle me dit que l'autre jour, elle était à l'école et quelqu'un lui a dit that's it, that's all. Elle lui a répondu basketball et elle s'est fait regarder croche, mais croche.
Shout-out à toi. Pour ma note pour le mocktail d'aujourd'hui, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Ça vient rejoindre ma palette. J'adore tout ce qui est épinette, je peux dire ça comme ça. Romarin, sirop de sapin, j'aime ça quand ça pétille un peu. Pas autant que Jess, mais j'aime ça quand même. 9 sur 10. Ouais. C'est simple, c'est bon. Puis moi, j'aime beaucoup le jus de canneberge. Puis c'est bon pour empêcher, ben pas empêcher, mais pour prévenir les infections urinaires. Fait que, let's go!
OK, yes, buvez sans modération parce que bien évidemment, c'est un mocktail. Alors moi aussi, je pense que je vais y aller pour un 9 sur 10 assez noble parce que ben ça goûte un peu comme une espèce de sangria virgin, mais d'hiver. Fait que c'est vraiment très bon. Et si jamais vous vouliez ajouter de l'alcool, il me semble que j'ajouterais genre du triple sec, tu sais, quelque chose un peu de, comme d'oranger, là.
Ouais, ou sinon de la vodka. Moi, je serais allée avec de la vodka, je pense.
T'es allée avec le coup de poing, là!
On se rappelle quand on a bu un Black Russian pendant un de nos épisodes et que moi, j'ai adoré. J'étais là, c'est bon ça. Et Jess était juste.
C'était comme un shot géant à siroter. Genre, je vois pas l'intérêt. Pour ceux qui ne se rappellent pas, un Black Russian, c'est un doux mélange. En fait, un violent mélange entre vodka et calois. Fait que ça fesse dans le dash match-up.
C'est sûr que mon cocktail préféré, c'est un Dirty Martini avec de la vodka. Ceci explique cela, d'après moi. C'est peut-être pour ça aussi. J'aime bien la vodka, je trouve que ça se boit bien. Ça me donne pas un coup de poing d'en face. Ce qui me donne un coup de poing d'en face, moi, c'est la tequila.
Et moi, je suis tout le contraire. La tequila, je te prends 3 shots back-à-back, je fais même pas de face. Je le fais même pas. Je sais, c'est un flex, je viens de me vanter maintenant.
Tu m'écœures, mais je t'aime pareil. Donc, sur ce...
Cheers!
Chin-chin! Jess, est-ce que aujourd'hui, s'il te plaît, tu peux nous parler de la cause CEC?
Oui, la cause CEC du jour, c'est un réseau européen qui rassemble des organisations et des services dédiés à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Vous allez comprendre que ça a un lien avec l'épisode qu'on présente aujourd'hui. Et ça s'appelle WAVE, donc Women Against Violence Europe. Donc, c'est ça, WAVE, hein? C'est ça. J'ai pas mal tout dit.
Si vous avez pas compris, ça s'appelle WAVE.
C'est un organisme qui a été créé en 1994, qui est actif dans plus de 46 pays et qui, comme on l'a mentionné, s'efforce de promouvoir des politiques, des pratiques qui visent à protéger et à soutenir les victimes de violences, en même temps de sensibiliser le public à cette problématique qui, on va se dire les vraies choses, ne va pas en descendant. Comment WAVE aide les femmes qui sont victimes de crimes? C'est assez simple, ça va les aider à trouver des refuges disponibles pour les aider à se sortir de leur situation de violence conjugale s'il y a lieu. À offrir des programmes de formation, sensibilisation, parce qu'on l'a toujours dit et on le redit, c'est en ébruitant, c'est en éduquant qu'on va être capable de venir à bout de ce fléau. Alors, c'est exactement ce que WAVE se donne pour mission de faire. Ils offrent aussi un soutien juridique et politique, parce qu'on peut se dire les vraies choses. Des fois, c'est très compliqué d'en venir à bout avec le système de justice. Je pense que ça ne change malheureusement pas qu'on soit en Europe ou qu'on soit au Canada. C'est très compliqué de démontrer qu'on a été victime d'abus, surtout d'abus psychologiques. Donc, WAVE est là pour vous aider à gagner en justice, possiblement, ou tout simplement à vous outiller pour être capable d'aller en justice et potentiellement offrir des répercussions sérieuses à votre abuseur.
En plus de ça, l'organisme fournit des ressources comme des bases de données de services d'aide locaux, des guides pour les victimes et des informations pour accéder à un soutien psychologique ou juridique. Finalement, étant un réseau européen, WAVE aide les femmes qui fuient des situations de violence dans un pays et cherchent de l'aide dans un autre en facilitant l'accès à des refuges ou à des services adaptés. WAVE agit comme une force collective pour amplifier les voix des victimes et renforcer les réponses institutionnelles à la violence basée sur le genre, tout en construisant un réseau de solidarité à travers l'Europe.
Comme à chaque fois, les liens pour aller encourager, tout simplement lire la mission, en prendre conscience, ou si jamais vous aviez les moyens et l'envie de faire un don, tous les liens et tout ce que vous avez besoin de savoir vont être disponibles dans la barre d'informations de cet épisode. Et si jamais vous n'arrivez pas à le trouver, écrivez-nous dans nos DM, ça va toujours nous faire plaisir de vous aider à vous diriger vers la bonne plateforme.
Un gros merci à WAVE d'aider les femmes à travers l'Europe qui sont victimes de crimes et de violences. Moi, ça m'épate que ce soit à travers l'Europe, dans 46 pays. C'est vraiment un organisme extraordinaire à mes yeux, donc on est vraiment contente à CEC d'en parler aujourd'hui.
Mesdames et messieurs, vous le savez, si vous avez appuyé sur cet épisode, c'est parce que vous êtes bien au courant qu'on est en pleine saison de Capricorne. De la Capricorne, du Capricorne, de Capricorne. Je sais pas si je l'ai dit comme il faut, mais ça va être ça. On est directement dedans cette saison qu'on célèbre du 22 décembre au 20 janvier. Les Capricornes, c'est des êtres ambitieux, loyaux, déterminés, sont souvent vraiment travailleurs, d'excellents amis, d'excellents partenaires de vie, sauf quand il s'agit des Capricornes qu'on a présentés dans le cadre de nos épisodes spécial Zodiac et aujourd'hui ne fera pas coutume. Nos sources pour le cas d'aujourd'hui sont Murderpedia.com, NBC News, Telegraph.co, BBC News, IPL Press, Wikipédia, Discover Hub Pages et YouTube. On va faire un petit avertissement avant le début de cet épisode. C'est un format plus court qu'à son habitude et comme l'information nous vient d'Indonésie et qu'elle est très, très, très limitée, on ne pourra malheureusement pas rendre hommage à toutes les victimes du tueur en série qu'on va présenter aujourd'hui. Comme on l'a dit, il existe très peu d'informations sur les femmes ayant perdu la vie des mains de ce crapule-là. On va vous encourager à garder en tête que malgré le fait que cet épisode soit monté différemment que tous les autres, cet homme horrible a délibérément enlevé la vie d'une quarantaine de femmes et qui a au passage détruit des centaines et des centaines de vies qui sont affectées par la perte d'une sœur, d'une épouse, d'une amie, d'une mère, d'une collègue. On le dit, on le redit, les victimes d'actes criminels sont beaucoup, beaucoup plus nombreuses qu'il peut le sembler de prime abord.
Ahmad Souradji est né le 10 janvier 1949 et vivait à Medan, qui est la capitale et la plus grande ville de la province de Sumatra Nord en Indonésie. Souradji vivait avec son père, qui était un éleveur de bétail très respecté dans la région. Enfant, Souradji était turbulent, il se battait souvent avec les enfants du quartier et volait, ce qui l'a conduit à sa première arrestation pour vol à l'âge de 19 ans. Malgré son comportement rebelle, il admirait profondément son père et aimait le suivre partout. Leur relation était très proche, jusqu'à la mort de ce dernier, survenue lorsque Souradji était encore jeune adulte. Après le décès de son père, insatisfait de travailler lui aussi comme éleveur de bétail, Souradji a décidé de suivre une voie différente et a pris la place de sorcier du village, un Dukun, connu comme une sorte de chaman réputé pour détenir des pouvoirs surnaturels. Avant de continuer, on veut juste, Jess et moi, tout de suite s'excuser si on a mal prononcé des mots, ou si dans l'épisode on va mal en prononcer, on est deux Canadiennes, Québécoises, Françaises, et on parle français, donc ça se peut qu'on massacre quelques mots, mais on fait vraiment de notre mieux.
On est des Canadiennes, Françaises, d'origine francophone. Si vous comprenez cette référence, slide dans les DMs.
Pour en revenir à Souradji, qui était maintenant devenu sorcier du village, ses clients étaient majoritairement des femmes qui venaient le voir pour obtenir des conseils sur comment attirer la chance ou comment préserver leur beauté. Au travers de tout ça, Souradji a épousé trois femmes, toutes des sœurs, soit dit en passant, je vais pas dire des sœurs côté religieux, non, c'était trois sœurs. Est-ce que c'est clair comment je le dis?
Oh oui, là, ils partageaient le même sang et non le même emploi.
Et voilà, merci Jess. Il y avait plusieurs femmes en même temps, donc c'était pas des mariages séparés, il les a mariées toutes les trois en même temps.
Et je pense que c'est assez un safe bet de dire qu'elles étaient au courant.
J'imagine que oui. Contrairement à plusieurs endroits, en Indonésie, c'est pas rare que les gens croient en la sorcellerie et au paranormal, surtout dans les zones rurales moins développées où les niveaux d'éducation sont faibles. La croyance en la magie noire est tellement forte que des personnes accusées d'en pratiquer ont parfois été mises à mort. On est très loin de Salem, Massachusetts. Suraji était lui-même considéré comme un médecin de la sorcellerie et non, il n'avait pas de doctorat. Il a simplement profité du phénomène de bouche à oreille pour obtenir sa réputation et du même coup, la confiance de plusieurs individus en quête de réponse. Peu avant de commencer à tuer, Ahmad Suraji a raconté que son père décédé lui serait apparu en rêve. Selon lui, son père lui aurait ordonné de devenir un guérisseur mystique pour acquérir plus de pouvoir. Pour y parvenir, il devait boire la salive de 70 jeunes femmes mortes. Convaincu qu'il n'existait pas d'autre moyen pour devenir plus puissant, Suraji a réalisé que trouver 70 jeunes femmes déjà décédées prendrait trop de temps.
C'est alors qu'a commencé à germer dans son esprit le désir de tuer. Il se doutait bien que ça serait très difficile de trouver autant de victimes dans un si court laps de temps parce que son but à court terme, c'était d'avoir plus de clients, plus de notoriété. Donc, il ne voulait pas attendre pour avoir sa nouvelle puissance. Alors, il a commencé à ébruter que c'était un sorcier et qu'il pouvait aider toutes les femmes qu'il désirait et ça pour n'importe quel problème. Il se met à promettre à des femmes vulnérables qu'il peut leur envoyer abondance financière, sérénité, un éveil spirituel, même empêcher leur mari de les tromper, les rendre plus belles, améliorer la qualité de leur peau. Vous voyez le portrait, là. J'aurais pu continuer encore. Toutes les excuses étaient bonnes pour Suraji de s'attirer plus de clientes et donc plus de notoriété. Ouvre la citation. « Mon père ne m'a jamais précisément demandé de tuer, mais ça m'a fait réaliser que ça prendrait des lustres de retrouver la dépouille de 70 femmes. Je voulais des résultats le plus rapidement possible, alors j'ai pris l'initiative de tuer. » Fin de la citation. Suraji, espèce de fin renard, il a misé, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la vulnérabilité de celles qui cherchaient des réponses dans le monde de la spiritualité et malheureusement, ça a fonctionné. On a juste à penser à tous ces charlatans qui font des milliers de dollars en offrant une lecture de ton avenir. Imaginez dans un pays où c'est encore plus socialement accepté. C'est vraiment facile pour ces femmes-là de tomber dans le piège de Suraji. Avec l'aide de l'une de ses trois épouses, il va appâter différentes victimes et va leur enlever sauvagement la vie. Donc, il y a une des femmes de Suraji qui s'occupe de débruiter sa grandeur et sa capacité magicienne. Et lui, en profite pour les assassiner. Au total, il y a 42 femmes qui vont être assassinées par Ahmad Suraji et ce, toutes dans le même but pour obtenir plus de pouvoir. Majoritairement, ces 42 femmes-là, ils ont perdu la vie de manière assez brutale et par strangulation surtout. C'est un peu son modus operandi. Il récupérait à ce moment-là la salive qui coulait de la bouche de sa victime avant de la boire, en clamant ainsi être capable d'augmenter son pouvoir. En fait, ce qui est vraiment troublant ici, c'est que ces victimes, elles étaient toutes âgées entre 11 et 30 ans parce qu'ils ne voulaient pas aller plus vieux, parce qu'ils disaient que ces femmes-là étaient plus impures et que leur pouvoir serait moins considérable. Donc, il a visé des enfants et des femmes qui étaient à l'aube de leur vie. Il est dit que les plus jeunes de ces femmes-là n'avaient pas nécessairement voulu obtenir de l'aide spirituelle de la part de Suraji, mais qu'elles se sont plutôt fait avoir par des promesses de bonbons, de bons repas, de moments avec des animaux mignons. Tu sais, l'avertissement que vos parents vous disent, ne jamais écouter, jamais aller dans l'auto de quelqu'un qui vous propose des bonbons. Lui a utilisé exactement cette stratégie-là et ce qui est absolument horrible, c'est que ça a fonctionné. Son carnage va avoir duré plus de 11 ans durant lesquels il tuait sans conséquence et surtout dans lesquels sa notoriété en tant que magicien ne continuait d'augmenter. Donc, plus il tuait, plus on parlait de lui, plus on ébrutait son pouvoir immense. Et ça fait en sorte que il y a plus de femmes qui risquent de tomber dans le piège et donc de perdre la vie. Le 24 avril 1997, après 11 ans de ce jeu horrible-là, il y a une jeune femme de 15 ans qui s'appelle Sri Kemala Dewi qui va demander à un conducteur de rickshaw. Un rickshaw, c'est comme une espèce de carrosse utilisée pour se déplacer en Indonésie à cette époque-là. Et Sri Kemala va demander à ce conducteur-là de l'amener chez nul autre qu'Ahmad Suraji. Elle est catégorique, là, le chauffeur doit garder la visite secrète. Il n'y a personne qui peut être au courant de qui elle vient voir, ni de l'emplacement de son rendez-vous. Le conducteur va accepter, va se rendre jusqu'au domicile du tueur sans savoir qui vient de lui livrer sa prochaine victime sur un plateau d'argent.
Ahmad Suraji a finalement été arrêté lorsqu'un voisin a remarqué une étrange élévation de terre Et lorsqu'il est allé l'examiner, il a immédiatement été confronté à une odeur de décomposition. Il a prévenu les autorités et en quelques heures, la famille a identifié la jeune Sri Kemala Dewi. La police a pu relier Suraji au corps grâce au témoignage du chauffeur de rickshaw qui se souvenait avoir déposé la fille dans sa ferme quelques jours plus tôt. Quand il a été interpellé par les policiers, il nie avoir rencontré la jeune femme, persuadé d'être en mesure de s'en sortir. Après tout, il est resté en dehors des mailles du filet pendant 11 longues années. Quand les policiers ont procédé à la fouille de son domicile, ils ont trouvé les papiers d'identification de la jeune Sri Kemala, la robe qu'elle portait avant son meurtre, en plus de son sac à main. Il n'y a plus aucun doute, les autorités tiennent leur coupable. Quand il est amené au poste de police pour subir son interrogation, les policiers n'auraient jamais pu se douter de la suite des choses. Il avoue presque automatiquement avoir tué 42 jeunes femmes et pointe sur une carte les endroits où il sera possible de retrouver leur corps. On exhume les dépouilles et puisque certains y sont enterrés grossièrement depuis 11 ans, plusieurs cadavres sont impossibles à identifier. Imaginez l'horreur pour les proches. Son procès a débuté le 11 décembre 1997 avec un dossier d'accusation de pas moins de 363 pages. Malgré les preuves accablantes, Suraji a maintenu son innocence. Ce qui rend l'affaire encore plus troublante, c'est que ses trois épouses ont été arrêtées pour complicité dans les meurtres et pour avoir aidé à dissimuler les corps. Parmi elles, Tumini, l'une de ses femmes, a été jugée comme son acolyte direct. Les accusés ont affirmé que leur confession avait été obtenue sous la torture de la police. Pourtant, le 27 avril 1998, un panel de trois juges a déclaré Suraji coupable. La sentence a été sans appel. La peine de mort par peloton d'exécution. Quand le verdict a été lu, des acclamations ont éclaté parmi la foule qui s'était regroupée dans et autour de la salle d'audience. Plus de 100 personnes s'étaient entassées dans la petite pièce tandis que d'autres suivaient le procès sur un écran à l'extérieur. Ahmad Suraji a été exécuté le 10 juillet 2008. Tumini, quant à elle, a également été condamnée à mort pour son rôle dans les meurtres. Cependant, sa peine a plus tard été réduite à la prison à vie. Le procès et son issue ont marqué un tournant dans cette affaire glaçante, révélant l'ampleur des horreurs commises par Suraji et ses complices. Un autre aspect qui rend cette affaire encore plus troublante, c'est qu'il a avoué qu'il n'avait aucune motivation sexuelle derrière le meurtre et qu'il avait même perdu le contact avec le message de son père. Selon ses dires, il voulait même arrêter, selon ses dires, mais a affirmé que l'argent qu'il gagnait en volant les biens de ses victimes était trop important pour qu'il puisse arrêter. Inutile de dire que Suraji, c'était bien loin d'être un guérisseur mystique, c'était un prédateur sans remords, prêt à tout, pour assouvir sa soif de pouvoir et l'argent.
Comme vous pouvez vous en douter, l'affaire elle a fait grand bruit en Indonésie et il y a plusieurs individus qui étaient sous le choc complètement par la tournure des événements. Là, pour eux, Suraji, c'était un médecin de sorcellerie, un professionnel. Il y a personne dans son entourage qui se doutait qu'il était en fait un meurtrier complètement tordu et surtout que ses trois femmes étaient complices de ses actes. Il y a un film sur ses crimes qui a été produit en 1997, qui était l'année de son arrestation. Sa vie et ses crimes ignobles ont d'ailleurs été la vedette dans un épisode d'une émission anglophone criminelle en 2019. Et ben, les familles et les proches des 42 victimes pleurent encore leur perte. C'est ainsi que se clôt ce court épisode. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci d'avoir été là malgré le fait que ça a été un épisode beaucoup plus court. On veut tout simplement refaire mention que Wave existe en Europe. Si vous y êtes et que vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à y faire affaire. Et on tient aussi à rappeler que malgré le fait qu'on a parlé de Suraji et qu'on n'a pas mis la lumière sur les 42 victimes, elles existent. Elles ont perdu la vie à cause d'une soif de pouvoir, littéralement. C'est terrible de se dire que 42 femmes avec la vie devant elles, parce qu'on se rappelle, c'est entre 11 et 30 ans, les victimes. Donc ces victimes-là avaient la vie devant elles et elles n'ont pas eu le loisir de la vivre tout simplement à cause d'un être tordu.
Excellente conclusion d'épisode, Jess. Ça me fait penser aussi, avant qu'on passe au teaser pour l'épisode de la semaine prochaine, j'ai lu sur un forum qu'il y a beaucoup de gens qui croient que Suraji avait des symptômes de schizophrénie. On n'est pas des psychologues ici, là. Je veux pas dire que je crois que c'est ça. Non, ça m'a juste fait penser à... Je me demande... On n'a tellement pas d'informations sur ce cas-là, puis même, c'est en Indonésie dans les années quand même 90-80. Le côté médical n'était pas ce qu'il est aujourd'hui pour la santé mentale, mais je me demande si ça l'a joué en ligne, si ça l'a joué en ligne de compte, ou si je me demande est-ce que l'environnement dans lequel il a été élevé a aussi nourri cette délusion-là totale. Je dis pas que c'est ça qui l'a conduit à faire ce qu'il a fait, là, mais c'est, vous me connaissez, j'aime ça. Moi, Maniche, c'est les tueurs en série, puis le côté psycho derrière ça. Puis on dirait que ce cas-là, ça me démange de l'intérieur. On dirait que je comprends comme pas. Il y a tellement d'éléments ensemble que j'aimerais ça pouvoir dive in un peu plus, puis on peut pas parce qu'il n'y a pas d'informations. Mais bref, ça me fait penser aussi qu'il y a un podcast qui existe au Québec, que c'est une docteure qui plonge justement dans le côté comme psychologique des tueurs en série.
Psychocrime, si je me trompe pas.
Exactement. Puis je me suis dit qu'on pouvait faire un petit shout-out à Psychocrime et à docteur Véro Ménard. Si vous êtes intéressé, vous aussi, pour par le côté justement psychologique, tueurs en série ou des crimes, je vous conseille vraiment, on vous conseille vraiment d'écouter ce podcast-là, c'est vraiment excellent.
Je seconde!
Et maintenant, Jess, c'est l'heure du teaser pour la semaine prochaine.
Oui, la semaine prochaine, on reprend un format qui vous a franchement plu l'an dernier. On avait fait un topo des pires accidents de parcs d'attractions de l'histoire. Et là, étant donné que c'est bientôt le mois de février, on est en plein dans le grand froid de janvier, on avait envie de se téléporter et de se rappeler que l'été est à nos portes. Peut-être pas tout de suite, mais bientôt. Alors, on va faire un épisode compilatoire des pires accidents de glissade d'eau. Donc, on se voit la semaine prochaine à...
Crémé cocktail.
Cheers, guys!
Chien, chien.